20h, c'est votre rendez-vous scientifique de la semaine. Aujourd'hui, nous parlons de l'avenir de l'industrie dans l'atome de savoir. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris.
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris. On parle de science sans en faire un fromage.
On parle de science et plus particulièrement de l'industrie ce soir sur Radio Campus Paris. Elle produit tous les objets qui nous entourent et que l'on utilise tous les jours. Pour en parler, ce soir, nous recevons Stéphane Marty. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes architecte en système expert embarqué et vulgarisateur scientifique dans votre chaîne YouTube Deus Ex Silicium. En milieu d'émission, Gaspard nous parlera de l'actualité scientifique du moment. Et à la fin, c'est Jade qui nous expliquera le fonctionnement d'un appareil photo depuis la Suède. Mais tout de suite, une petite présentation de la situation actuelle de l'industrie.
Voilà, la France n'est plus une championne de l'industrie, on le sait, mais elle est la championne des délocalisations et le pays le plus désindustrialisé du G7, quasiment à égalité avec la Grande-Bretagne. C'est le constat assez déprimant qui vient d'être dressé par France Stratégie, c'est un rapport de 600 pages qui vient d'être remis à l'Assemblée nationale et qui dresse le panorama le plus complet, je crois, depuis longtemps, de l'état de l'industrie française. Une industrie qui a été réduite de moitié en 40 ans, qui ne représente plus que 10% des emplois et qui ne pèse plus que 13% du PIB contre 25% en Allemagne et 20% en Italie.
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris.
Donc, l'industrie est-elle déconnectée des problèmes actuels? C'est une question qu'on est en droit de se poser en constatant les différentes choses invraisemblables qui existent. Nous avons délocalisé nos usines industrielles pour produire dans des pays qui, à l'époque, étaient émergents. La manœuvre est extrêmement chère et les normes sécuritaires et environnementales quasi inexistantes. Quelques décennies se sont écoulées depuis. Rien n'a changé. Nous produisons toujours à l'étranger, massivement, et nous importons. Cependant, tout a changé. En effet, ces pays dans lesquels nous avons délocalisé notre production se servent maintenant de cette production comme d'un moteur et d'un levier économique, chose qui manque grandement à l'Europe qui souffre de la crise du Covid et qui parvient difficilement à relancer sa croissance. Produire localement n'est pas uniquement bon pour l'emploi ou alors pour la croissance d'un pays ou d'une zone économique. C'est aussi une très grande sécurité. Actuellement, nous subissons une crise concernant la production mondiale de composants électroniques et de semi-conducteurs. Que cela soit pour faire des voitures ou pour nos cartes graphiques dans nos ordinateurs, nous manquons cruellement de ces petits composants qui se trouvent partout dans nos vies. Aurions-nous eu le même problème si l'on produisait ces composants localement en France ou en Europe? On remarque que nous sommes aujourd'hui dépendants de ces sites de production étrangers et le rapport de force est complètement inversé. En effet, nous étions avant les pays développés et les pays en plein développement étaient tous assez contents finalement de produire pour nous. Mais aujourd'hui, ces pays en fait ne sont plus en développement et peuvent totalement exercer différentes pressions sur nous, des pressions parfois politiques ou économiques, en menaçant de ne plus exporter ce qui est produit. C'est une idée un peu tirée par les cheveux, me direz-vous. Et bien, parlons du transport. Imaginons que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes entre l'Europe et la Chine et que les échanges commerciaux se fassent sans aucun problème. Il faut tout de même importer ces marchandises. Nous avons constaté avec l'Evergreen que dépendre d'un canal qui ne fait pas la largeur de la longueur d'un bateau n'est pas une super idée. Nous pensons donc immédiatement à la terre. Oui, les nouvelles routes de la soie sont une merveille pour l'Europe, mais certaines de ces routes qui relient la Chine à l'Europe passent par la Russie, la Turquie ou encore l'Iran. Tous ces pays sont régulièrement au centre de discussions chaudes avec l'UE. Il ne nous reste donc plus que le secteur aérien pour transporter nos marchandises de manière sécurisée et celui-ci n'est pas en très bon état. Pourquoi je vous bassine avec toutes ces histoires? Eh bien, c'est tout simplement pour que vous constatiez que nous avons des difficultés à gérer ces flux de marchandises. Mais c'est pour la bonne cause. Ce que l'on importe, ce sont des produits raisonnés et raisonnables. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre invité.
Ce soir, nous avons invité Stéphane Marty. Vous êtes architecte en système expert embarqué et vulgarisateur scientifique dans votre chaîne YouTube Deus Ex Silicium. Alors justement, vous faites de la vulgarisation scientifique et donc sur YouTube et votre domaine d'étude, c'est les semi-conducteurs, pour ceux qui ne le savent pas. Alors justement, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire de la vulgarisation scientifique sur YouTube et pourquoi ce domaine d'étude?
Alors en fait, c'est de la vulgarisation essentiellement sur par rapport à de l'électronique. Et quand j'ai commencé à en faire, donc c'était quand j'ai pris la décision en 2014, Il y avait, pour ainsi dire, rien à ce niveau sur YouTube francophone. Il y avait des choses en anglais ou chez les anglophones, mais en France, il y avait vraiment, vraiment rien de, qui correspondait à ce que j'attendais d'une chaîne de techniques liées à l'électronique, les semi-conducteurs et tout ce qui pourrait toucher de près ou de loin la technologie ou la microélectronique. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant de commencer un projet, sachant que dans tous les cas de figure, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ça n'en serait jamais un gagne-pain ou un métier. Enfin voilà, je me revendique pas du tout youtubeur. Moi, j'ai déjà un métier et j'ai pas du tout besoin en fait de YouTube pour vivre. Donc, c'est plus pour une forme de partage de mes connaissances, de mon expérience, et aussi de faire découvrir un certain nombre de choses au grand public qui ne soupçonnent pas ou qui n'ont absolument jamais entendu parler. Voilà, c'est un peu comme ça que ça a démarré, et il se trouve que ça a pris graduellement des proportions assez importantes, puisque aujourd'hui on a dépassé les 200 000 abonnés, donc pour une chaîne de microélectronique, c'est un peu inespéré, quoi. Enfin, je pense que j'imaginais pas que ça pourrait être le cas au bout de 5 ou 6 ans.
Du coup, effectivement, c'était vraiment pas du tout. Enfin, l'objectif, c'était vraiment de partager un contenu axé dans ce domaine-là qui n'existait pas en France ou en Europe. Et ouais, vraiment, ça a explosé en fait. La demande a explosé.
Alors, ça a explosé aussi parce que j'ai diversifié les sujets. C'est-à-dire que je ne me suis pas juste contenté de faire de l'électronique, de filmer ou de montrer des composants. Voilà. J'ai cherché à diversifier les sujets et notamment essayer de rapprocher aussi la microélectronique des produits grand public qu'on a de plus en plus aujourd'hui. Et ça, par contre, ça a interpellé pas mal de gens. Je me suis rendu compte que les gens étaient curieux de savoir comment leurs appareils du quotidien fonctionnaient et voulaient en apprendre un peu plus. Et en plus, quand j'ai commencé à aborder des sujets qui concernaient notamment, ça a démarré avec le Linky, le compteur Linky, où j'avais fait une vidéo, c'était fin 2018 je crois, sur l'analyse complète du décortiquage d'un compteur Linky. Là, ça a intéressé encore plus de gens parce que c'est un sujet sensible. Et au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de personnes qui m'ont contacté pour me proposer des sujets, et notamment des sujets sur des appareils ou des systèmes qui étaient proches de l'arnaque, quoi, des trucs, voilà. Et donc ça, j'avoue qu'à la base, je n'avais pas pensé à traiter ce genre de sujet-là. Mais petit à petit, il y en a eu de plus en plus. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est tellement énorme qu'il faut absolument traiter ça, quoi. C'est pas possible de laisser dire certaines personnes par rapport à des produits ou que certains produits puissent être distribués comme ça sans que de l'autre côté il n'y ait pas des gens qui disent attention, regardez, c'est pas vraiment ce que c'est censé faire, quoi. Voilà.
Pour rebondir un peu du coup sur ce que vous dites, dans une de vos vidéos, vous parliez notamment de tests de grossesse, qui est un sujet qui peut être perçu comme peu conventionnel pour une chaîne YouTube sur les semi-conducteurs. Et dans votre vidéo, en fait, on découvre qu'on cherche à mettre finalement de la technologie un peu partout. Même si finalement l'utilité n'est pas au rendez-vous, est-ce que c'est un constat que vous faites régulièrement, pas uniquement quand vous préparez vos vidéos, mais dans la vie de tous les jours?
Alors, c'est vrai que le test de grossesse électronique, c'est un bon exemple du marketing qui a pris le pas sur l'utile, en fait. Et parce que, en fait, ce que révèle cette vidéo, c'est que le test de grossesse électronique ne fait absolument rien d'autre que ce que fait un test classique, sauf qu'il y a juste un capteur qui permet de vous dire combien il y a de petits traits sur la bande chimique. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'en gros, ça coûte 4 fois plus cher qu'un test classique et ça ne fait juste que vous dire Voilà, ça, vous êtes enceinte ou vous n'êtes pas enceinte. Et quand on regarde sur un spectre un peu plus large, on a aussi d'autres types de produits qui sont plus sortis du cerveau des gens du marketing, qui ont demandé à des ingénieurs ensuite de faire des produits par rapport à ça, plutôt que des choses vraiment très utiles. Et je crains que ça soit de plus en plus fréquent à l'avenir, parce qu'en fait, on cherche à simplifier un peu trop la vie aujourd'hui des gens. Après, c'est pareil aussi par rapport à de plus en plus d'objets connectés qu'on a. Il y a des tas d'objets connectés dont on se passerait bien, quoi. Mais comme, après des études marketing ou des études de marché, les certaines entreprises se disent que ça pourrait se vendre et ça pourrait fonctionner. Bon, voilà, on met des ingénieurs sur le coup, ils fabriquent des produits. Et au final, c'est pas des plus pertinents, quoi. Voilà. C'est un constat, effectivement, que je fais. Maintenant, je suis pas non plus là à épier tout ce qui se fait pour savoir si c'est utile ou pas. Hein. Mais comme il y a quand même, maintenant, aujourd'hui, je reçois beaucoup de messages tous les jours, et notamment des gens qui me disent, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce produit-là? On dirait que ça, c'est pas très intéressant, et pourtant, ça coûte cher. En plus, c'est souvent des produits qui sont pas donnés. Voilà.
C'est ça, en fait, on a l'impression un peu que finalement aujourd'hui, les entreprises se cachent beaucoup derrière leur marque, derrière le packaging, derrière toutes ces choses qui permettent de vendre finalement le produit. Et le produit en lui-même, finalement, parfois ne répond pas forcément aux attentes, mais on va dire n'est pas adapté forcément pour la problématique à laquelle il répond.
Oui, c'est ça. C'est vraiment, je pense que ça doit être des produits qui sont conçus suite à des brainstorming de gens, des commerciaux ou des marketing qui ont des idées et qui se disent, bon, ça permettrait sans doute à l'entreprise, à notre entreprise, de gagner plus d'argent. Et voilà, ils se lancent dans ce genre de conception-là. Mais ça n'a rien de révolutionnaire. C'est pas comme si on prenait le cas de ce test de grossesse. C'est pas comme s'ils avaient introduit une technologie qui serait, par exemple, plus précise ou encore plus fiable que les tests de grossesse chimiques. Pas du tout. C'est simplement là pour avec un capteur qui vous dit s'il y a une bande ou s'il n'y a pas de bande. Voilà. Il y a probablement d'autres exemples où, par contre, il y a une avancée technologique, mais j'en ai pas rencontré beaucoup, en tout cas en ce moment.
Et on remarque effectivement qu'aujourd'hui, on possède énormément d'objets qui ont des fonctionnalités parfois qui peuvent se recouper aussi. Donc chaque objet voulant intégrer toujours plus de fonctionnalités. Je pense par exemple, j'ai vu qu'il y avait des frigos connectés qui existaient. Donc c'est pas forcément hyper pratique pour passer un coup de téléphone, mais pourtant, en allant chercher un pot de moutarde, on peut lire ses mails. Donc je sais pas si c'est une utilité réelle, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de se noyer dans toutes ces fonctionnalités? Et est-ce qu'on se dit pas, voilà, bah, si on peut mettre de la technologie, si on peut mettre des fonctionnalités, bah, on en met, quitte à finalement gâcher un peu la fonctionnalité principale de l'objet?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a, un objet qui est censé faire quelque chose, on va dire, d'essentiel, mais pour permettre de le rendre plus cher, on va commencer à rajouter des tas de fonctionnalités autour qui n'apportent pas grand-chose à sa fonction essentielle, mais qui permet de diversifier certaines petites parties. Et ça justifie un prix beaucoup plus élevé que qu'au prix auquel il serait vendu s'il n'avait pas toutes ces fonctions-là. Sauf que quand on regarde bien après l'utilisateur, on se rend compte dans les études qu'il ne se sert que d'un petit pourcentage de toutes ces fonctionnalités additionnelles, périphériques. Ils l'ont acheté essentiellement, si c'est un frigo, bah, ils l'ont acheté pour pouvoir stocker les produits, les garder au frais ou avec le congélateur. Là, ils s'en servent. Et puis, en effet, comme vous dites, si jamais il est aussi connecté et qui permet de se connecter sur Internet pour voir en même temps la météo, enfin voilà, ça n'a aucune utilité essentielle par rapport à un frigo, mais on se dit aujourd'hui, il faut que les gens aient le maximum d'informations partout où ils sont. Et ça justifie pour certaines personnes dans les services marketing, ça justifie d'ajouter toutes ces fonctions et ça permet en plus de justifier des prix plus élevés. Voilà. Mais ouais, vous avez raison, on se noie un peu dans tout ça.
Et justement, les problématiques ne sont pas uniquement au niveau du prix, comme vous en parlez, mais il y a aussi les problématiques du type du recyclage, en fait, puisque finalement, on essaie de bourrer nos objets de technologies non nécessaires. Mais ces technologies, une fois qu'on jette l'objet, il faut les recycler. Et là, c'est une procédure qui est tout de suite beaucoup plus complexe.
Exactement. C'est complexe, notamment quand les composants deviennent de plus en plus petits, parce que... c'est des process qui sont de plus en plus lourds et coûteux de pouvoir séparer les différents matériaux pour ensuite pouvoir les recycler indépendamment les uns des autres. Je pense que les fabricants ne se posent pas toujours ce genre de questions-là parce que ce n'est pas eux qui les recyclent de toute façon.
Oui. On a l'impression, en fait, finalement, que le domaine des nouvelles technologies, bah, ordinateur, téléphone portable, le fait de se dire, voilà, je crée un objet de dernière technologie, je crée un objet vraiment puissant, petit, joli, eh ben, en fait, ça, je pense qu'ils considèrent un peu que ça ne les oblige pas à prendre en compte peut-être ces différentes contraintes. Ils sont au-dessus de ces différentes contraintes.
Oui, je pense en effet que quand ils pensent à produire ou à imaginer et à fabriquer ces objets-là, le système, enfin le recyclage ne va pas nécessairement jusqu'à leur process de pensée. Pour eux, leur but, c'est de fabriquer l'appareil le plus intéressant possible pour les utilisateurs. Mais une fois que l'appareil est en panne, ou une fois que l'utilisateur veut s'en séparer, c'est plus vraiment leur problème. Et notamment par rapport aux pannes, parce qu'il y a quand même pas mal de... Il y a de plus en plus d'objets aujourd'hui qui sont très difficiles à réparer, voire même parfois impossibles pour beaucoup de gens. Donc ça, c'est pareil. Aussi bien pour le recyclage, enfin selon moi, hein, aussi bien pour le recyclage que pour la réparation, il y a quand même de plus en plus de fabricants et de marques, et souvent des grosses marques, qui ne se posent pas trop la question, en tout cas, je constate qu'elles ne se posent pas vraiment la question de savoir si ça sera un produit réparable ou si ça sera un produit facilement recyclable. Voilà, ils l'ont mis sur le marché, ça marche bien, ça se vend, et après ce n'est plus trop leur problème, quoi.
Et justement, puisque vous parlez de produits réparables, est-ce qu'on peut imaginer que dans le futur, on retourne vers des objets qui soient plus simples, avec peut-être moins de fonctionnalités, mais qui deviennent, par exemple, réparables?
Alors, je pense que ça dépend des marques, mais très sincèrement, aujourd'hui, on n'en prend pas vraiment le chemin. Il y a un site qui s'appelle iFixit, qui justement met un indice de réparabilité sur certains appareils. Et quand on regarde ce qu'ils font, on se rend compte que, par exemple, des fabricants comme Apple... clairement, ce n'est pas vraiment leur problème de savoir si leur produit est réparable ou pas. Ce n'est pas les seuls, hein, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Mais l'indice de réparabilité et la note qui est mise sur la plupart des produits que j'ai vus chez iFixit, qui viennent de chez Apple, ont toujours une assez mauvaise note en termes de réparabilité. Donc, je pense que ça dépend des fabricants. Ça dépend aussi de la miniaturisation des produits, parce qu'il est évident que plus l'objet est petit et concentre une technologie assez complexe, et plus c'est difficile à réparer, même pour des électroniciens, même pour des ingénieurs, tout simplement parce qu'il y a un autre problème, c'est qu'il est très difficile, voire impossible, d'avoir les schémas de principe de ces appareils-là. Et donc, quand on est obligé de chercher une panne, ça peut être compliqué quand on n'a absolument pas d'informations, de data sheet concernant l'appareil, ça peut être un challenge, quoi. Et même en étant très bon en termes de en réparation, il y a certains électroniciens qui sont obligés de jeter l'éponge, quoi, parce que à un moment donné, on s'arrête, on est face à un mur, et si on n'a pas les informations nécessaires pour savoir quels sont les signaux qu'il faut mesurer, on ne peut pas les inventer, quoi, donc on est obligé de s'arrêter.
Mais effectivement, on peut se dire aussi que cet indice de réparabilité, ça peut amener sur le plus long terme mais des bonnes choses, que c'est peut-être le début de quelque chose de positif, d'une amélioration des produits qui sont fabriqués.
Ça, il peut y avoir une remise en question, en effet. Et aussi parce que de plus en plus de gens souhaitent que les produits soient quand même réparables, parce que, comme je vous le disais, il y a plein de gens qui me contactent parce que ils souhaiteraient réparer certains appareils, sauf qu'ils n'ont pas nécessairement les compétences, donc ils me demandent parfois si je ne peux pas leur donner des indices ou des petits conseils. Mais je me rends compte qu'il y a vraiment des gens qui n'ont pas envie de jeter systématiquement les appareils qui sont tombés en panne chez eux. Et ça, c'est plutôt un bon état d'esprit, parce qu'en effet, il y a parfois des appareils qui tombent en panne, alors que c'est un petit composant qui a juste claqué, quoi. Il suffit de le remplacer et ça repart. Et après, c'est une question d'éducation aussi. Je suis pas sûr que notre société aujourd'hui, au moins occidentale, soit axée sur la réparabilité des appareils. Il y a pas mal de gens qui bidouillent, ils cherchent à bidouiller des trucs. Donc eux, il faudra aussi avoir le matériel, mais eux essayent au maximum de faire ce qu'ils peuvent pour réparer certains de leurs appareils qui tombent en panne. Mais après, ce n'est pas non plus donné à tout le monde, il faut en avoir envie. Mais je pense qu'il faudrait... Enfin, c'est difficile de demander à des constructeurs de faire des appareils systématiquement réparables, parce que parfois, les technologies actuelles... Quand par exemple, on a un appareil dans lequel 80% des fonctions est inclus dans un circuit intégré, et que si le circuit intégré claque, c'est fini, il ne pourra pas être réparé de toute façon. On ne peut pas demander à ce genre de fabricant de trouver d'autres solutions pour faire en sorte que ça ne soit pas une seule pièce qui en plus n'est pas systématiquement vendue au grand public, parce que ça aussi, parfois c'est pas évident de retrouver les pièces qui sont tombées en panne. Voilà, donc C'est un sujet intéressant. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés par ça, mais c'est pas encore suffisamment répandu pour moi. Je pense qu'il faudrait, je sais pas s'il y a quelque chose à faire de particulier, peut-être commencer aussi à en parler dans les écoles pour sensibiliser les plus jeunes au fait que il peut y avoir des appareils qui sont plus faciles à réparer et que ça peut être intéressant de s'intéresser à comment c'est fait. Ça va peut-être au-delà de mes initiatives ou de certaines initiatives qu'on a sur YouTube. Hein.
Ça me fait penser... J'avais acheté une caméra chez LDLC, donc c'était un kit caméra sportive. Avec un boîtier étanche, il y avait une pièce du boîtier qui s'était cassée en plastique. Et j'avais essayé de les contacter pour avoir le fichier 3D, pour imprimer en 3D la pièce. C'est impossible de revoir la pièce. Le bloc de protection n'est pas revendu. Il fallait racheter le kit à 150 euros. Donc, c'était assez étonnant. Mais par contre, il y a la marque Boulanger qui développe maintenant des produits qui peuvent être réparés à la maison. Et notamment, ils fournissent les fichiers pour imprimer en 3D. J'avais vu ça sur une télécommande de télévision, par exemple. Si on la cassait, on pouvait réimprimer en fait sa télécommande en 3D. Donc, commence à se développer légèrement, on va dire.
Voilà, ça, c'est une très bonne initiative. Il faudrait que ça soit reproduit par de plus en plus de distributeurs ou de fabricants. Mais c'est très bien. Alors, effectivement... Des gens qui ont des imprimantes 3D chez eux peuvent se permettre de refaire certaines parties qui seraient cassées. Parce que si l'électronique en plus est intacte, mais c'est plus comme dans votre cas, un problème mécanique, là c'est encore plus simple. Si on a le fichier, on peut le reproduire, le replacer, et c'est reparti. Parce que enfin, j'ai quand même du mal à imaginer que systématiquement ces gens préfèrent vous vendre un autre kit à 150 €, comme vous dites, plutôt que éventuellement vous fournir le fichier 3D pour que vous débrouilliez ensuite. Parce que si c'est ça, bon, là après il y a un problème d'état d'esprit, quoi. C'est que s'il y a une pièce qui est cassée, ben, ils préfèrent tout vous faire racheter. Là pour le coup, il faudra éviter d'acheter la même marque derrière, parce que là, pour moi il y aurait un problème d'état d'esprit, quoi. Si ça s'est déjà vu, hein, ça s'est déjà vérifié, mais du coup personnellement moi je n'achète plus chez ces marques là
puis surtout la problématique dans cet indice de réparabilité, finalement, c'est vraiment qu'on nous parle constamment de problématiques de recyclage pour essayer, voilà, d'avoir un impact carbone le plus bas possible. Là, on parlait dans l'édito du domaine de l'aviation, qui est aussi très critiqué pour la pollution qui est générée. Et en fait, on n'a pas du tout cette idée de pollution sur les objets qui nous entourent. On se dit, puisque finalement il y a des bennes pour le recycler, etc., ça va être recyclé sans aucun problème. Et en fait, c'est pas du tout le cas.
Non, le process de recyclage est quelque chose de très complexe et de coûteux. Et comme je vous disais, plus les circuits sont petits, et plus ils concentrent plein de composants. Maintenant, c'est des composants montés en surface pour de plus en plus d'appareils. Vous prenez un téléphone portable, pour recycler les matériaux qui sont dans un téléphone portable, c'est pas simple du tout. Alors vous imaginez le nombre de téléphones portables qui se vendent tous les jours et qui tombent en panne et donc que les gens changent. C'est clair. C'est là aussi, je pense qu'il faudrait sensibiliser peut-être un petit peu plus le grand public Enfin, je ne sais pas si on n'a pas. Bon, on est dans une société de consommation. Donc peut-être que si les gens savaient tout ce qui se passe ensuite, une fois que les produits partent pour être recyclés, ils tomberaient sans doute dénus de ce qu'ils apprendraient, quoi.
C'est ça. On n'a pas du tout de questionnement sur le. On prend pas en fait la durée de vie d'un produit sur l'ensemble de sa vie. Et là, on peut prendre par exemple l'exemple des voitures électriques. On se dit, moi, quand j'utilise ma voiture électrique, je ne pollue pas. Et c'est vrai. Mais dans le cycle de vie de la voiture électrique, au final, je pollue autant qu'un véhicule qui fonctionne à essence. Et on n'a pas du tout cette idée, cette démarche de se poser la question de la pollution sur toute la durée de vie du produit. On est vraiment uniquement dans l'utilisation.
Oui, on est sur le moment. Et c'est vrai qu'une voiture électrique, il n'y a pas d'émission de CO2 pendant sa durée d'utilisation. Par contre, pour fabriquer une voiture électrique, au moment où elle apparaît sur le marché à la vente, elle a déjà un niveau de CO2, enfin de carbone, de, je sais plus comment s'appelle l'indice là, qui est très élevé par rapport à une voiture à essence qui, elle, polluera sur la longueur plutôt. Mais oui, c'est clair. Notamment, et la raison, c'est notamment toute l'électronique et essentiellement toutes les batteries qui sont à l'intérieur pour les produire, ça demande des métaux rares et tout le process et toute la complexité de ces matériaux fait que ça consomme beaucoup de CO2.
Je vous remercie pour cet échange, Monsieur Marty. Tout de suite, nous allons faire une courte pause pour écouter l'actualité scientifique faite par Gaspard, qui prend des nouvelles de la science régulièrement.
Divorcé depuis quelques temps, Jeff Bezos est fin prêt à s'envoyer en l'air. Le futur ex-patron d'Amazon s'installera à bord de la capsule New Shepard, construite par sa seconde entreprise Blue Origin. Le vol aura lieu le 20 juillet prochain, avec également à bord le frère de Jeff Bezos, une troisième personne à ce jour inconnue, et un autre inconnu qui a acheté sa place aux enchères, 28 millions de dollars. La mise à prix était à 4,8 millions de dollars. Il s'agira là du premier vol de tourisme dans l'espace. La capsule atteindra la ligne Kármán à 100 km de la Terre avant de revenir sur le plancher des vaches, le tout en 7 minutes. Voilà, bonnes vacances Jeff Bezos. Un voyage définitivement dans l'air du temps, puisqu'il se déroulera évidemment entièrement confiné, très drôle, mais surtout parce que le deuxième vol de tourisme sera organisé peu de temps après par SpaceX d'ici la fin de l'année. Retour sur Terre, mais toujours confiné, ou presque, pour le salon VivaTech. Le rendez-vous annuel de la technologie se déroule en ce moment porte de Versailles à Paris, ou chez vous. L'événement est en distanciel pour les visiteurs et en présentiel pour les exposants, certains conférenciers et certains professionnels. Pour nous étudiants, le passeport 4 jours en distanciel est à 30 euros. Il permet de voir et revoir les conférences et ouvre l'accès aux cabines en ligne et aux expériences immersives. Lui émerge peu à peu sur les cartes. L'océan Austral a officiellement été reconnu comme un océan à part entière par National Geographic, un grand pas pour la popularisation du cinquième océan de la planète qu'on oublie trop souvent sur les planisphères. L'océan Austral entoure le continent Antarctique et a la particularité d'avoir un air très froid et des glaciers d'un bleu particulier, et peut-être que cette description changera dans les décennies à venir à cause du réchauffement climatique. À tous les grands brûlés du froid ou du chaud, sachez que l'Agence nationale de la recherche a récemment publié une interview de deux membres du projet Blockprint, un projet qui vise à imprimer une nouvelle peau pour soigner les brûlures. Le projet issu d'une collaboration publique-privée a permis de développer une bio-encre applicable directement sur la plaie à l'aide de l'imprimante adéquate avec des cellules cutanées du patient. Enfin, Windows 10 devait être la dernière version du système d'exploitation pour ordinateur de Microsoft. Il devait être mis à jour continuellement sans subir de changements majeurs, le tout indéfiniment. Et finalement, Microsoft a annoncé la fin de maintenance de son OS le 14 octobre 2025. En effet, Windows a fait peau neuve et sa nouvelle version Windows 11 sera dotée notamment d'une interface plus actuelle et plus ergonomique avec une meilleure intégration de ses applications telles que Teams, Outlook, Edge, etc. Rendez-vous le 24 juillet pour en savoir plus. Et comme c'est la dernière émission de la saison, je vous souhaite un bel été déconfiné, profitez bien de toutes les réouvertures et ne manquez pas la nuit des musées le 3 juillet. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange,
c'était People Are Strange de The Doors. Tout de suite, nous allons pouvoir continuer notre interview, interview de Stéphane Marty. Monsieur Marty, vous êtes architecte en système expert embarqué et vulgarisateur scientifique dans votre chaîne YouTube Deus Ex Silicium.
L'atome de savoir, vous en reprendrez bien une part ?
Donc du coup, pour ceux effectivement qui ne connaissent pas la chaîne Deus Ex Silicium, je vous invite à aller voir. Et depuis plusieurs mois, pour ceux qui connaissent depuis maintenant quelques temps, voilà, on a remarqué que vous postiez des vidéos qui n'étaient plus forcément axées sur l'analyse des semi-conducteurs, mais vraiment sur l'explication et le décortiquage de produits grand public. Donc alors déjà, est-ce que c'était quelque chose de prévu? Ou alors, est-ce qu'en tant que professionnel du domaine des systèmes embarqués, lorsque vous avez découvert certaines absurdités, qu'on achetait, vous vous êtes dit, ok, ben là, il faut vraiment que j'en parle, quoi. Je suis obligé d'en parler.
Je pense que ça fait partie de l'évolution naturelle de la chaîne. C'est-à-dire que quand on crée une chaîne comme ça, on n'est pas tout de suite contacté par des gens, des abonnés ou de la communauté qui se crée au fur et à mesure. Et on est contacté au fur et à mesure. Et dans les messages que je recevais, progressivement, j'avais de plus en plus de demandes pour que j'explique le fonctionnement de certains appareils. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a intéressé aussi. La question, c'était de savoir comment j'allais présenter ces choses-là, comment j'allais les filmer, parce que c'est pas toujours évident à expliquer à travers de simples images. Et il se trouve que ça accrochait de plus en plus de gens. Et j'ai eu de plus en plus de demandes. Alors après, là par exemple, j'ai des dizaines d'appareils plus ou moins gros qu'on m'a envoyé, qu'on m'envoie petit à petit. Je pourrais faire des vidéos pendant 2 ans en permanence tellement je reçois des trucs. Donc il faut que je fasse des choix aussi. Et les choix que je fais, c'est par rapport à des appareils qui sont un peu singuliers de plus en plus et qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est pour ça que, par exemple, ça ne m'intéresse pas de décortiquer un téléphone portable parce que sur Internet, sur YouTube, on en trouve partout. Par contre, il y a d'autres petits appareils beaucoup plus insolites qui sont plus intéressants et dont on ne soupçonne pas aussi... Le principe de fonctionnement qui est parfois très beaucoup plus complexe voilà que ce qu'on pense. Donc c'est vrai que j'essaye d'alterner entre de la vulgarisation des systèmes électroniques et de l'analyse de produits plus grand public qu'autre chose parce que je sais que les gens sont curieux de savoir comment fonctionne la technologie qui les entoure. Et il faut... Alors, il y a beaucoup de chaînes de tech qui se contentent juste d'expliquer les derniers produits qui sortent, mais juste dans le mode d'utilisation. Par contre, ils ne vont pas jusqu'à ouvrir ces produits-là pour expliquer comment ils fonctionnent. Souvent parce que ça nécessite des compétences, ceux qui n'ont pas, ce qui est normal. Parce que ce n'est pas leur domaine d'activité. Donc voilà, j'en ai profité pour effectivement aller jusqu'à expliquer le principe de certains de ces produits. Et je me rends compte que ça plaît de plus en plus, ça intéresse de plus en plus. Donc je vais continuer à en faire en alternant avec les autres sujets.
Et donc ce n'est pas uniquement le contenu que vous produisez, ces vidéos de vulgarisation ou présentation de produits, puisque vous aidez aussi les gens à ne pas se faire arnaquer finalement. Il y a certains systèmes, donc je pense notamment aux boîtiers OBD, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits boîtiers électroniques qui se branchent sur une voiture et qui sont vendus pour pouvoir augmenter la puissance de votre véhicule de manière exponentielle. Et est-ce que voilà, vous sentez une certaine responsabilité aussi d'éviter, pour faire en sorte que les gens évitent ces arnaques totales?
Alors, c'est pas devenu un service public, mais j'avoue que parfois c'est tellement gros qu'il faut dire quelque chose, il faut faire quelque chose, et voilà, j'en profite pour, dans certains sujets, aborder effectivement ce genre d'appareil-là où enfin, je pense que le plus dramatique, c'est tous les objets qui sont censés vous protéger des ondes électromagnétiques, etc. Là, il y en a des dizaines, il y en aurait des dizaines. En fait, on pourrait faire une chaîne qui ne s'occuperait que de ça. Or, c'est pas du tout moi ce que je souhaite. Mais il y a effectivement parfois certains appareils ou certains systèmes qui sont vendus pour vanter les mérites de tel ou tel truc ou pour vendus comme censés faire quelque chose alors qu'en fait derrière il se passe absolument rien, c'est une guirlande. Donc ça oui, je pense que c'est bien d'en parler. Le problème c'est que plus j'en parle, plus je reçois des messages en me disant ouais, est-ce que vous pourriez aussi parler de ça et de ça parce que je suis certain que c'est une arnaque. Donc ça fait un peu boule de neige, mais voilà, je me sens pas comme un devoir d'aider toutes ces personnes-là, mais au moins les informer que ça existe, qu'il y en a de plus en plus d'ailleurs, parce que il faut pas oublier que c'est des produits qui ne coûtent pas cher à fabriquer et qui sont vendus souvent très cher. Donc les gens qui vendent ça se font une marge énorme sur le dos des gens qui sont un peu naïfs et qui achètent ça en pensant que ça fonctionne vraiment. Voilà, donc faut faire attention, effectivement. Il faut pas systématiquement, et en plus, il y a quand même des produits qui ont des sites internet qui sont vraiment calibrés et formatés pour... déjà, ça sent un peu l'arnaque rien qu'en regardant le site internet. Donc, il faut être vigilant et ne croyez pas que tout ce qui est vendu... comme fait des miracles, quoi. Voilà.
On parlait en début d'émission de produits avec trop de technologie, ça c'est peut-être des produits avec pas assez de technologie quand ils sont vendus.
Ouais, c'est vrai.
Et effectivement, vous parliez donc des toutes les technologies qui doivent nous protéger des ondes environnantes, etc. Et effectivement, peut-être que le développement de votre chaîne YouTube et des contenus que vous proposez maintenant, donc sur vraiment aider les personnes qui peuvent acheter des produits qui sont des arnaques, va aussi dans une dynamique peut-être de contrer entre guillemets les fake news aujourd'hui qui sont beaucoup plus répandues. Il y a une infirmière il y a quelques jours aux États-Unis qui présenter le fait que le vaccin la rendait magnétique et puis elle se collait une clé sur la peau comme ça et la clé finalement se met à tomber. Enfin, du coup, c'est peut-être aussi cette dynamique un peu plus générale qui fait que ce genre de contenu attire énormément de personnes.
Et oui, mais aujourd'hui, on est quand même dans un contexte très complotiste. Enfin, c'est très compliqué de parler de ce genre de choses. Il y a trois jours, là, sur Twitter, j'avais vu passer justement ce que vous dites là, une vidéo d'un gars qui est en train de mesurer, il vient de se faire vacciner, il est en train de mesurer, il se rend compte qu'en fait, selon son instrument de mesure, il serait magnétique, bon bref. Et j'avais répondu à un compte Twitter qui est a priori un compte plutôt complotiste, en disant que ça serait quand même bien à un moment donné d'arrêter de relayer tout et n'importe quoi juste pour faire le buzz, parce que ça en devenait ridicule. Et quelques heures après, ce compte-là m'avait bloqué. Voilà. Donc en fait, il n'y a même pas de discours, c'est pas possible d'essayer de rentrer dans un débat avec ces personnes-là, je trouve. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il est très difficile de... ça prend beaucoup plus d'énergie de démontrer que c'est une fake news plutôt que de faire cette fake news. Voilà, c'est simplement il y a d'autres chaînes qui font ça très bien, mais moi c'est pas des fake news, c'est des fake products quoi que je fais parfois, notamment le fameux boîtier OBD où c'était vendu comme étant quelque chose qui pouvait donner plus de puissance à votre voiture, et en fait il s'avère que c'est juste un boîtier qui fait clignoter des LED. Voilà.
On pense aussi au patch face-up pour protéger des ondes avec les téléphones portables. Effectivement, là on se rend compte que Ça prend 2 minutes hein, de présenter le face-up et puis de dire que c'est un produit miracle, etc. Effectivement, le présenter réellement sous un angle scientifique avec des mesures qui prouvent que ce produit n'est pas efficace, effectivement, prend beaucoup plus de temps.
Non seulement ça prend beaucoup plus de temps, mais en plus, même quand on cherche à démontrer les résultats et le fait que ça ne fonctionne pas, on nous dit que c'est parce qu'on s'y est mal pris et que pour vraiment obtenir les résultats, il faut faire comme il faut suivre tel et tel process. On n'en finit jamais, quoi. C'est ça le problème. Et surtout, ça se multiplie. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de produits comme ça.
Alors, on avait parlé dans l'émission d'entreprises qui nous permettaient de refabriquer chez nous, par exemple, des télécommandes de télévision en plastique qu'on aurait cassées. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, tout le monde peut faire presque comme les professionnels, dans le sens où on peut imprimer en 3D des pièces chez soi. On peut aussi faire fabriquer des circuits imprimés pour moins de 20 euros, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, toutes ces personnes qui fabriquent de leur côté, on les appelle plus généralement les makers. Et pendant le Covid, ils ont été très actifs pour fabriquer des visières en plastique, notamment donc avec un bandeau imprimé en 3D qui se fixait sur la tête et une feuille en plastique transparent qui se mettait devant le visage. Et est-ce que vous pensez que cette communauté de makers peut apporter quelque chose de positif à l'industrie aujourd'hui en faisant justement, en présentant des produits qui sont peut-être moins technologiques, mais qui ont une fonctionnalité réellement bien précise et bien établie?
Absolument. Je pense que tous ces makers ont un rôle à jouer aujourd'hui dans notre société. Aussi pour montrer aux fabricants que il y a des personnes qui ont de très bonnes idées et qui sont capables de faire des projets seuls ou à deux ou à trois personnes qui pourraient rivaliser avec certaines idées qui viennent de constructeurs qui, eux, ont fait leurs preuves depuis longtemps. Et effectivement, la communauté des makers qui se développe de plus en plus, je pense, a un, est de plus en plus écoutée aussi. Je m'aperçois que, autant ça avait l'air d'être au début un peu en marge de tout ce qui se faisait vis-à-vis des constructeurs, aujourd'hui c'est un peu différent parce qu'en effet, on peut avoir une imprimante 3D pour pas cher, on peut, avec un logiciel de 3D, concevoir certaines pièces, réaliser des projets. Ensuite, avec un peu de connaissances en électronique, soit à base d'Arduino, soit de tous ces petits circuits qui sont déjà prêts et qui sont programmables, on peut concevoir des projets qui auraient été très difficiles à faire il y a une dizaine d'années, par exemple. Et ça fait réfléchir les gens, nécessairement, parce que on se rend compte que aujourd'hui, pour certaines applications, on n'a même pas besoin d'aller acheter des produits qui sont fabriqués par des fabricants. On pourrait même se les faire soi-même. Voilà. Et en plus de ça, il y en a qui mettent ensuite leur projet en open source. Et donc, ça permet d'être repris par le reste de la communauté, d'être continué à développer, améliorer. Et tout ça, c'est dans le but de pouvoir partager de plus en plus de connaissances et ne pas être tributaire systématiquement de tout ce qui se fait dans l'industrie. Voilà, donc ça, c'est très bien. Moi, j'approuve ce genre d'état d'esprit parce que ça manque. Et aujourd'hui, avec tous les systèmes qui se développent de plus en plus, c'est à la portée de plus en plus de gens. C'est un peu comme la musique. Dans les années 70-80, c'était compliqué de faire un album ou même 90 ou un morceau. Aujourd'hui, c'est super facile parce que c'est accessible à tout le monde. Et voilà, je pense que le fait de démocratiser tous ces principes-là va nécessairement enrichir la connaissance à travers, non pas à travers uniquement les ingénieurs qu'on trouve dans les sociétés, chez les fabricants, etc., mais aussi à travers la communauté générale.
Puis c'est aussi un peu une communauté qui s'auto-entretient et qui se développe, on a l'impression, parce que quand on regarde ça, parfois, on se dit « je vais peut-être acheter un produit et pas le fabriquer parce que ça a l'air très compliqué ». Et en fait,
quand on se renseigne, on voit qu'il y a des gens qui l'ont fait avant nous, et on voit qu'en fait c'est très simple, et du coup ça entretient comme ça un peu cette dynamique, et ça la développe aussi. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant.
Ah oui, et puis ça prend de l'ampleur en fait maintenant. C'est-à-dire que c'est pas comme, enfin c'est un mouvement qui est en marche et qui va pas s'arrêter, ça va continuer à se développer. Et je pense même que il y a des systèmes qui vont être développés chez cette communauté-là avant de se retrouver chez certains industriels ou dans certaines sociétés fabricants. Des idées qui viendraient directement de la communauté des makers. Et après, ce qui peut se passer, c'est que effectivement, quand ce sont des projets comme ça qui sont souvent en plus soit open source, soit accessibles facilement, il faut faire attention qu'il n'y ait pas certains industriels entre guillemets qui récupèrent un peu les idées, les plans, etc., qui mettent une équipe d'un certain nombre d'ingénieurs dessus pour améliorer tout ça et ensuite se le faire à sa sauce. Ça, c'est le risque. Bon, c'est le risque de tout ce qui est open source, hein, bien sûr. Mais c'est le risque quand même.
C'est vrai qu'on va peut-être vers des produits développés par les makers qui, là, sont faits réellement avec le minimum parce que les particuliers ont accès à énormément de choses, mais pas à tout non plus. Et donc, des produits qui sont avec le minimum nécessaire pour les fabriquer, qui sont réparables, puisque quand on crée un produit, on aime bien pouvoir le réparer soi-même. Et donc voilà, on va vers peut-être une nouvelle dynamique industrielle, mais qui serait lancée par cette nouvelle communauté en ligne, qui est d'ailleurs internationale, puisque cette histoire de masques développée pendant le Covid, c'est vraiment un projet international.
Oui, et ça avait donné de très bons résultats, et très rapidement en plus, puisque en quelques jours, il y avait eu déjà, si je me rappelle bien, ça avait permis... notamment à certains hôpitaux de se retrouver avec du matériel qu'ils n'avaient pas initialement, donc ça s'était propagé assez vite. Et effectivement la question de la réparabilité de ces appareils-là faits par les makers elle est importante parce que justement on va dire que pratiquement tous les appareils qui sont faits par la communauté des makers sont réparables. Et ça c'est un vrai plus par rapport à ce qu'on peut trouver sinon sur le marché grand public. Voilà. Après, c'est sûr que demander à une communauté de makers de faire un téléphone portable modulaire ou réparable, c'est plus compliqué. Mais peut-être qu'on y viendra, quoi.
Et bien sûr, il y a aussi même des contraintes de fabrication. Il faut que les produits puissent être faits sur des chaînes de production à très grande échelle, etc. Donc évidemment, ce n'est pas un exemple à prendre comme ça, mais voilà, ça peut être déjà une première idée pour les grosses industries de développer ce genre de produits. Je vous remercie énormément d'avoir été présent pour cette émission et cet entretien, Monsieur Martel. Donc n'hésitez pas à aller écouter la chaîne YouTube Deus Ex Silicium, qui vous propose un contenu aussi bien de microélectronique et d'explications sur les semi-conducteurs que des vidéos qui vont être de vulgarisation, de présentation et de décortiquage de produits grand public avec des choses intérieures que vous ne soupçonnez pas.
Nous allons tout de suite écouter la chronique de Jade, qui fait sa chronique depuis la Suède et qui va nous parler des appareils photo.
La photo, c'est ma passion. C'est parti. Depuis tout petit, j'ai aimé faire de la photo. J'aime le cadre, j'aime raconter des histoires.
Je ne supporte plus quand je travaille que des gens soient comme ça, agglutinés autour de moi avec leur portable. J'emmerde ceux qui prennent des photos avec leur portable.
Comme l'écrit le photographe Guy dans le film Le sens de la fête, sorti en 2017, aujourd'hui, la photographie n'a jamais été aussi accessible. Un simple smartphone suffit. Pourtant, beaucoup de gens ignorent comment ça marche. Le procédé sur le papier est très simple. Il nous faut trois éléments. L'objectif, le capteur et l'obturateur. Sans oublier, bien sûr, la lumière. Parce que oui, la photographie est avant tout un jeu de lumière. Pour bien tout comprendre, je vous propose un petit tour dans le passé, parce que non, la photographie ne s'est pas créée en un jour. Vers 1800, Thomas Wedgwood réussit l'exploit de fixer une image prise via une caméra obscura sur du papier et du cuir blanc traité au nitrate d'argent. le principe de la caméra obscura, ou chambre noire, est assez simple. Il s'agit d'une boîte noire, par laquelle on fait entrer une source de lumière à l'aide d'un petit trou. En restreignant la lumière provenant de l'extérieur, l'écran récepteur ne recevra qu'un point précis de tout ce qui se trouve en face de la caméra obscura. L'écran retranscrira donc l'image en inversé, de gauche à droite et de bas en haut. C'est le principe de la lumière géométrique. Le trait de lumière est droit et en passant par le trou, il arrivera de l'autre côté de l'écran. Ce procédé est connu depuis très longtemps, mais la difficulté était de conserver l'image créée dans l'obscura caméra. En utilisant du nitrate d'argent et du cuir blanc, Thomas Wedgwood a utilisé des matériaux photosensibles qui, par un procédé chimique, réagissent à la lumière, ce qui permet de conserver une trace de l'image. Par exemple, le nitrate d'argent noircit à la lumière. Seulement, ce photographe de la première heure n'a été capable de conserver son image que quelques minutes, avant qu'elle ne disparaisse de son support. Dès lors, il faut trouver un moyen de conserver l'image sur le papier plus de temps. C'est le français Joseph Nicéphore Niépce qui réussit à conserver la première image issue de la photographie en 1825. Mais on ne s'arrête pas là. Après avoir travaillé de concert avec l'inventeur français, Louis Daguerre invente une méthode de prise de photo avec une nouvelle étape, celle du développement. Cette étape est essentielle parce qu'elle va permettre de réduire considérablement le temps de pose des photos. Oui, je ne l'avais pas dit, mais pour sa première photo, Niépce avait dû recourir à un temps de pose de plusieurs jours. Plusieurs jours, l'appareil photo posé face à la même image. La méthode de Daguerre est de suite prisée et ouvre la photographie à la classe moyenne. La photographie progresse, les récepteurs deviennent de plus en plus sensibles à la lumière et l'on invente donc l'obturateur, un des éléments essentiels pour photographier, comme je l'ai dit plus tôt. Son rôle est de ne laisser la lumière toucher le récepteur qu'un certain temps, durant moins d'un centième, voire moins d'un millième de seconde. La photographie se développe donc très vite et la couleur apparaît sur les photos. Mais du coup, concrètement, comment ça marche ? Le modèle suit le même que celui de la chambre noire, la obscura camera. Pour un appareil photo argentique avec pellicule, ce sont les appareils photo ordinaires, la lumière va pénétrer l'appareil photo via l'objectif composé de lentilles et converger vers le récepteur qui ici sera la pellicule. Toujours grâce à un procédé chimique, la pellicule va capter l'image et il faudra ensuite la développer pour obtenir une photo. Bien sûr, l'obturateur joue toujours son rôle pour bloquer la lumière. Aujourd'hui, nous n'utilisons plus trop l'argentique, même si ça revient à la mode. Aujourd'hui, nous utilisons principalement des appareils photo numériques. Là encore, le principe est le même. La lumière qui arrive par un petit trou, l'objectif, touche un récepteur, qui est maintenant un capteur. Le capteur, qui est un ensemble d'équipements électroniques, transforme les informations transmises par la lumière en signaux électriques. Le capteur transforme et décompose l'image en millions de pixels, qui deviennent une suite de chiffres qui décrit chaque pixel qu'elle contient. Ce procédé est bien plus simple pour prendre des photos et pour les modifier. Par exemple, si vous voulez baisser la luminosité de votre photo, il suffit de modifier la suite de chiffres pour chaque pixel en demandant une baisse de la luminosité. Ce qui n'est pas possible avec la technologie argentique. Pour les smartphones, il va s'agir de la même technologie.
Merci beaucoup Jade, tout est plus clair, même sans flash. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. C'est la dernière émission de l'Atome de Savoir pour cette année. En attendant celle de septembre prochain, vous pouvez nous écouter sur le site de Radio Campus Paris et sur Spotify. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Ce soir, à la réalisation, c'était Gaspard Delaruelle et notre attaché de production, c'est encore et toujours Johanna Blin. A très vite sur Radio Campus Paris, restez curieux et portez-vous bien.